Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quel fut le premier piratage d'un réseau de télécommunications? Avant de voir comment il fut piraté, commençons par décrire ce réseau, ce premier moyen de télécommunication permettant d'envoyer des messages à distance. J'en ai déjà parlé ici, il s'agit des tours de chape. Alors je vous préviens d'ores et déjà, cette histoire n'a pas de morale, vous allez voir. Petit rappel pour commencer. Aussi appelé le télégraphe chape, ce réseau fut inventé en 1793 par Claude Chape. Il était constitué d'un réseau de sémaphores, des tours, érigés sur le territoire en France. Et ces tours étaient séparées d'une dizaine de kilomètres chacune. Ce réseau a permis pendant de nombreuses années d'envoyer par exemple un message de Paris à Toulouse en seulement 2h30. Alors comment cela fonctionnait-il? Eh bien, chaque tour était dotée d'un mât mobile, visible avec des jumelles depuis les tours d'à côté. Et ce mât pouvait prendre différentes positions. À chaque position correspondait un code. Pour décoder le message, le code, chaque opérateur dans sa tour disposait d'un livre contenant la signification de chaque signe. En reproduisant le code à son tour, chaque opérateur permettait la transmission à la tour voisine et ainsi de suite jusqu'à la tour destinataire. Dans chaque tour, il y avait deux opérateurs qui se relayaient chaque jour à midi. La première ligne de communication fut Paris-Lille, ouverte en 1794. Et 50 ans plus tard, en 1844, 534 tours quadrillaient le territoire français, reliant sur plus de 5000 km les plus importantes agglomérations. Mais l'année suivante, en 1845, la première ligne de télégraphe électrique entre Paris et Rouen marqua le début de la fin pour les tours de chape. Voilà, maintenant que nous avons défini les tours de chape, venons-en à leur piratage. Ce piratage fut entrepris par deux hommes d'affaires de la région de Bordeaux, Louis et François Blanc, entre 1834 et 1836. Leur but, être informés avant tout le monde de la clôture des cours de la rente à la Bourse de Paris, sur laquelle ils spéculaient. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, ce cours était transmis par voie postale et mettait 3 jours pour aller de Paris à Bordeaux. Avec ce piratage, avec le piratage des tours de chape, ces deux hommes d'affaires le connaissaient en seulement quelques heures et pouvaient ainsi spéculer beaucoup plus efficacement. Pour ce faire, ils avaient corrompu le directeur d'une station ainsi que son assistant dans la ville de Tours. Pourquoi Tours? Eh bien parce que c'est précisément dans cette ville que s'effectuait la correction des dépêches transmises par ce système de communication. Il était donc facile à cet endroit d'insérer un message complémentaire. Voici en détail comment fonctionnait le stratagème. Lorsque la rente à 3% connaissait une variation significative, un agent sur place à Paris expédiait un colis codé à la station télégraphique de Tours. Ce colis contenait des chaussettes en cas de baisse et des gants en cas de hausse. Le directeur du télégraphe et son assistant répercutaient alors l'information dans les dépêches corrigées. Et enfin, le message final était déchiffré par Pierre Renaud, lequel louait tout simplement une chambre avec une vue imprenable sur la tour de chape de Bordeaux. Et ce détournement a fonctionné parfaitement pendant 2 ans, et ce malgré des suspicions croissantes sur les succès boursiers des frères Blancs. En 1836, l'assistant du directeur du télégraphe de Tours décède, et avant sa mort, met un proche dans la confidence. Et il lui suggère qu'il pourrait lui succéder. Mais ce directeur n'y donne pas suite, et il va dénoncer toute l'opération aux autorités. Le procès ouvert en 1837 conclut à l'acquittement des frères Blancs. Il faut dire qu'à l'époque, il n'existait aucune loi encadrant le fonctionnement des télécommunications, et donc aucune infraction précise ne put être identifiée. Le directeur du télégraphe de Tours dut par contre démissionner. Au terme du procès, les frères Blancs parviennent à conserver les sommes accumulées en 2 ans de spéculation fructueuse. Ils poursuivent leurs activités dans des casinos à l'étranger, et après le décès de Louis, François se fait connaître comme le magicien de Monte-Carlo, et il acquiert une fortune considérable. A noter enfin que l'éclatement de l'affaire, et l'acquittement, faute de cadre légal, on l'a dit, a tout de même contribué au vote de la loi sur le monopole public des communications.